93 présente le retour du 93.
Bon mercredi tout le monde, je m'appelle Jeff Blanchette, je m'installe pour les 4 prochaines heures dans le retour du FM 93. 3 petites journées de vacances encore pour les animateurs vedettes du FM 93, quoique...
Pas tous!
Luc Lavoie is in the house, il était avec Myriam Segal aujourd'hui pour une première émission complète. Donc c'était un moment qui était attendu quand même,
ben
et
oui.
Il va être là officiellement à partir de lundi. Donc là on est comme en avant-match justement, on est en réchauffement pour la saison qui débute véritablement c'est lundi, c'est lundi l'avant-match à 18h.
Attends de t'asseoir Dan.
Ah oui, viens-t'en.
Je suis en retard.
Je le sais pas, ressourcement qu'ils disent.
Ouais mais ça c'est fini là.
Ben là, mais ça paraît pas.
J'étais sur le site internet qui est pas un site internet pour trouver la soupe à l'oignon de ton bistrot là.
Ok.
J'étais là-dessus puis à un moment donné Benjamin il me dit... Dan, juste te dire, honnêtement, je veux pas te déranger. Je vais essayer de me mêler de mes affaires. Mais, tu sais, le show pour lequel il te paye chaque jour, là, ça commence là.
OK.
Ah, mais je vais y aller de bord.
Ouais. C'est une info pertinente, quand même.
Contrairement à celle sur la soupe à l'oignon, on va dire, ben franchement, parce que moi, j'étais dans le bureau, je vous écoutais parler, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je me mets à la place des auditeurs dans leur voiture pour au bureau qui nous écoutent.
Les autres sont mêlés.
Hein? Les autres sont mêlés comme il faut.
Eux autres, contrairement à toi, on va leur expliquer.
Ah, OK.
Ah oui. Bon, quelque part dans les 240 prochaines minutes, là, on va parler de soupe à l'oignon à un moment donné. Là.
OK.
Fait que, sois aux aguets.
Non, ça tombe bien, j'adore ça, puis j'ai faim. Fait que c'est parfait.
Ben non, on vient de manger, là.
T'as pas dîné?
Parce que moi, j'avais prévu me commander un lunch. Ouais. Dan m'a dit non. Commande-toi pas un lunch, pas je vais te faire un délicieux smoke meat.
Dan va te faire un smoke meat?
Écoute, j'en revenais pas. Il m'a jeté par terre. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Un collègue qui me propose un smoke meat, pour moi, c'est mieux qu'une demande en mariage. Là,
un collègue qui te propose de la bouffe, point.
Oui, mais un smoke meat, t'sais, c'est quelque chose. Là, c'est tout qu'une bouffe. Fait que parfait. Il me fait un petit sandwich smoke meat. Puis il me dit, inquiète-toi pas. Je sais que t'as encore faim. Lui, il avait de l'air d'avoir encore faim. La deuxième va venir autour d'un heure et quart. notre affaire.
Ouais. Là, on a eu un contre-temps.
Qui était la préparation de l'émission.
Un peu comme l'horaire à Coupe Rogers, là. Le deuxième sandwich a été repoussé à une heure ultérieure.
Okay. C'est à cause de la pluie. Il y a eu de la pluie.
Okay. Fait que là, on est sur le court central. Il va être sur un des side courts un peu plus tard dans l'après-midi.
À un moment donné.
C'est ça.
Wow.
Mais parlant de nourriture, on a pris un petit breuvage ensemble, Paul Raphaël et moi, hier.
Oui.
On est vraiment en train d'instituer une tradition qui a commencé hier puis qui va... Peut-être pas se poursuivre, on le sait pas.
Ben, ça va dépendre.
À partir de quand, c'est une tradition.
Ça va dépendre si ta blonde a d'autres congés.
Hey, je suis rendu deux en deux, là, des soirées à faire quelque chose, pas de blonde.
Aïe.
Ça a bien été.
Au moment où vous allez devenir chum, ben Paul Raphaël va retomber sur l'horaire du week-end.
C'est ça. Toi, le vendredi soir, samedi soir, tu vas avoir le goût d'aller prendre un breuvage.
Oui.
Moi, c'est là que je vais me coucher.
Faut pas s'attacher. Là, il vient de te faire une passe à la palette pour ta plug du show. Là, tu peux la faire à 14h03.
Quel show, parles-tu de l'excellente émission que Québec se lève, que j'anime à partir de 7h les samedis et dimanches ici au FM 93?
Très subtil.
OK, excellent. Oui, mais c'est vrai que c'est un bon show. Je sais pas pourquoi vous voulez que je parle de ça, mais... Alors, je vais vous en parler. En fait, semaine prochaine, on reçoit...
On avait un meeting d'équipe ce matin parce que Éric Duhem était à la station. Vous comprenez qu'il arrive lundi. Donc, il y a certaines choses dont on doit parler pour arriver fin prêt pour cette grande première à 14h. Donc, il y avait... Dan qui était là, il y avait Éric évidemment, il y avait moi, puis il y a Julie Grenon qui se joint à notre équipe. Donc, c'est la première fois qu'on l'annonce publiquement. Julie qui est une collaboratrice de Paul Raphaël.
Ex-collaboratrice. Mais non, c'est pas vrai. Elle va être là encore en fin de semaine. À l'excellente émission que Québec célèbre.
Oui. Donc, tu vas avoir un dernier week-end avec elle. Puis, à partir de lundi, à 14h, elle va être avec nous pour animer cet automne. Donc, c'est elle qui vient compléter l'équipe autour de la table. Évidemment, Alex Desrosiers va être là à la circulation. Il y a Luc qui vient se joindre à nous à l'équipe de la recherche. Donc, on va avoir toujours cette équipe-là complète pour l'émission du retour. Mais on a bien hâte de commencer ça. Il y a tout le temps un paquet de questions qu'on se pose quand on change de... Tu sais, ça va être le retour que vous appréciez. On va garder un peu l'esprit sympathique, touché aussi à de la culture, à de la gastronomie, à de la techno. On fera pas que de la politique parce que c'est Éric qui s'en vient.
Mais les gens qui pensent qu'Éric Duhem, c'est un airbite qui fait juste chialer, vous le connaissez pas.
Ah oui, c'est ça.
Mm-hmm. Moi, je l'ai dit à des amis, vous comprenez? J'ai des amis qui sont plus à gauche que nous autres autour de la table. Mm-hmm. Je les aime quand même. Mais ils me disent, tu travailles avec Éric? Je peux pas croire. Je leur dis, garde.
Je peux pas croire.
T'es-tu sûr? Faut que je paye l'hypothèque. Non, c'est pas vrai. Éric, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis, je vous mets une heure autour d'une bière, à la même table, puis c'est réglé. Là.
Ouais.
Vous allez dire, OK, je comprends pourquoi tu travailles avec ce gars-là. Tu sais, il va vous mettre dans votre dans sa poche, puis vous allez comprendre pourquoi on apprécie ce gars-là dans les corridors, au-delà du personnage en onde qui peut déranger, qui peut brasser. Donc, c'est un peu ce Éric-là qu'on va garder avec nous, puis qui va brasser aussi, là, inquiétez-vous pas, là, on n'enlève pas les crocs d'Éric Duhaime, là, ça arrive pas. Donc, on va avoir un bel amalgame du bonhomme sympathique qu'on côtoie dans les corridors et du gars mordant qu'on connaît en onde actuellement. Donc ça commence à 14h lundi prochain. Nous, il nous reste encore 3 jours ensemble. Ça va être la fin de ma 9e semaine d'animation dans le retour cet été. Demain, Dan m'enlève une petite heure parce qu'il y a encore une fois l'avant-match du Pro-Am Gagné-Bergeron. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un avant-match spécial pour le Pro-Am?
Non, on a fait ça déjà il y a quelques années quand c'était à l'ancienne Lorette. Puis à cette époque-là aussi, on avait enlevé une heure au retour.
Ouais.
Mais c'est parce que tant qu'à sortir l'émission, faire une émission puis jaser avec des joueurs de la Ligue nationale à qui on peut pas tout le temps jaser, mais aussi bien le faire 2 heures qu'une heure. Donc, c'est ce qu'on fait demain de 17h à 19h en direct de la place Jean Béliveau, en marge de cette 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron qui vient en aide à différentes causes de Québec et qui fait le bonheur de tout le monde qui trippe de près ou de loin sur le hockey. Et tu sais qu'il y a 11 mini-matchs. Il y aura demain sur la patinoire du Centre Vidéotron 11 mini-matchs. Un mini-match, c'est des mousses qui jouent au hockey pendant à peu près 10-12 minutes, comme on peut voir après la première période d'un match des Remparts. Oui. Okay? Mais demain, il y en a 11. Fait qu'il y en a avant, pendant, puis d'après moi, il y en a après le match aussi. En tout cas, il va en avoir quasiment toute la soirée. Il y en a 11 au total. Tu penses-tu le nombre de jeunes qui demain vont fouler la glace du Centre Vidéotron? Je dirais pas en même temps, mais à 2-3 minutes d'intervalle avec une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale. Les kids, quand ils vont s'en aller dans leur vestiaire pour mettre leur équipement de hockey, ils vont se faire attacher des patins par leurs parents.
Oui.
Puis ils vont regarder dans le corridor des fois que Vincent Lecavalier, Simon Gagneau ou Patrice Bergeron passent pas.
C'est ça, quand ils vont sortir de la glace, ils vont donner un petit fist bump à Vlasic.
C'est ça.
Ouais, c'est vraiment exact. Cool. Mais Colin, c'est quoi? C'est 6 contre 6, j'imagine? Est-ce qu'on y
va? Les mini-matchs? Je te dirais que des fois, c'est un peu la foire au village.
Des fois, ils ont l'air 15 contre 15, moi, je dirais.
Des fois, il y a une rondelle, beaucoup de joueurs blancs, 3-4 joueurs rouges dans le territoire, l'autre bord. Ça, c'est pas le bon territoire, soit dit en passant. Puis dans les 10-12 blancs, il y en a 6-7 sur le cul. Mais c'est ça, un mini-match.
Ah ouais.
C'est la beauté de ça. Puis allez pas penser que Patrice Bergeron et Simon Gagné ont débuté leur carrière de hockey dans la Ligue nationale. Ben non! Il y en a un qui a grandi à Sainte-Foy, puis l'autre à l'ancienne Lorette, puis ils ont déjà joué des mini-matchs, mais leur cheminement de vie a fait en sorte qu'ils ont atteint les plus hauts sommets. Ils ont réussi à performer dans la Ligue nationale. En plus, pas juste de l'atteindre, les deux ont eu une brillante carrière.
C'est de l'organisation, pareil, là, les vestiaires, puis tout, pour mais 11 mini-matchs. Là, je serais curieux de voir les coulisses de la journée demain.
Ouais.
L'organisateur avait quitté en contact. Là,
Alain Rioux,
il là-dedans, là, à mur à mur. Là.
Alain Rioux m'a confirmé d'ailleurs qu'Antoine Vermette va être là. Un gars que j'aime beaucoup, Antoine Vermette, c'est un des athlètes professionnels les plus gentils qui m'a été donné de connaître. Antoine Vermette est sur le point d'annoncer sa retraite, à moins que je l'aie manqué pendant mes vacances. Là. Il a comme pas de contrat pour l'an prochain, puis il songe à la retraite. Mais c'est un gars de la Rive-Sud de Québec qui a eu une très belle carrière lui aussi, qui a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks il y a 2 ans, et il sera là. Il sera là demain. Ça n'avait pas été confirmé dans les dernières semaines, mais Alain m'a dit en début de soirée hier que Antoine Vermette va compléter la formation.
Donc, 17h demain pour l'avant-match. Nous, on va aller participer au tailgate. Toi, tu vas animer en direct de la place Jean Béliveau. Puis ensuite, la soirée débute réellement à 19h du côté du Centre Vidéotron. Je vous parlais de Luc Lavoie qui était avec nous ce midi. Un autre fait saillant de l'émission du midi aujourd'hui, c'est cette entrevue de Myriam avec Coralie, non fictif évidemment, une des 3 jeunes filles dont les photos nues ont circulé au séminaire des Pères Maristes. Ça s'est tramé hier après-midi. On a pu préenregistrer cet entretien-là qui dure environ 10 minutes. On aura l'occasion de vous le faire entendre intégral cet après-midi parce que c'est la première fois qu'on peut réellement entendre une de ces jeunes filles-là, entendre sa version. Donc Myriam qui a mené l'entrevue avec beaucoup de doigté, comme elle sait le faire avec l'expérience qu'elle a, et c'est d'entendre Coralie s'ouvrir sur sa tentative de suicide, toute la souffrance qu'elle vit depuis que ces photos-là ont circulé au séminaire des Pères Maristes. Elle était soulagée d'avoir dénoncé, mais s'attendait à être davantage comprise par ses collègues de classe. Puis l'attitude des adultes dans ce dossier-là, ça l'a déçue, évidemment, de voir que les jeunes garçons sont en voie d'être réintégrés pour l'automne prochain au séminaire des Pères Maristes. Ça fait pas son affaire. Évidemment, ils rentrent pas dans les fins détails de l'histoire parce qu'il y a enquête en cours pour les 6 jeunes garçons qui sont visés par ça. On voulait pas non plus nuire au dossier qui est judiciarisé, mais tout de même, elle parle de ce qu'elle vit depuis ce temps-là. Puis le SPVQ confirme que le dossier a pas encore été transféré au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, parce que l'enquête est pas terminée. Les 6 garçons avaient été arrêtés au début du mois de mai, donc l'enquête qui suit toujours son cours. Mais cet entretien-là est disponible en podcast. Ça va vous montrer une autre facette du dossier qu'on traite depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois de mai. Donc, ça fait 4 mois déjà qu'on parle de cette histoire-là. Puis, on va vous présenter ça là, vers 17h25 cet après-midi, si vous l'avez manqué. Faut absolument qu'on s'arrête pour vous le faire entendre intégral. Une dizaine de minutes avec Coralie, qui a rencontré Myriam Segal hier après-midi. Hier soir, je suis allé du côté de l'Agora du Port de Québec, un site que j'adore. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas davantage de concerts, davantage de spectacles. C'est le Port de Québec qui gère les installations. La ville doit avoir un peu son mot à dire également.
Mais c'est pas à cause des plaintes à la base qu'il avait arrêté de faire des...
Oui, tout à fait.
C'est vraiment à cause des plaintes,
de bruit. Des plaintes de bruit autour, autant pour les gens qui résidaient dans le Vieux-Québec que pour les gens de la Rive-Sud, parce que tu es juste à côté du fleuve, fait que le son porte comme si de rien n'était de l'autre côté.
Mes parents, la maison de mes parents est juchée dans le Cap. Je me souviens quand j'étais petit, puis il y a des spectacles à l'Agora, on les regardait sur le balcon.
Oui.
Ben, on les regardait, on les écoutait fait, là. Mais le son était très, très clair.
Un des meilleurs shows que j'ai vu, d'ailleurs, c'était à l'Agora il y a plusieurs années avec mon père et mon frère. On est allé voir Styx à l'Agora. Okay. C'est un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie là-bas parce que le son était génial. Il n'y a pas d'enceinte qui vient faire une réverbération puis te ramène le son en arrière de la tête. Fait en sorte que, justement, c'est moins bon. C'est comme la boîte à bruit, là, le pavillon de la jeunesse. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça, c'était une catastrophe. Mais au moins, là, l'Agora, c'est vraiment plaisant comme endroit. Et j'imagine que tu as eu un beau show hier.
Ouais, j'ai vu Green Day aussi à l'Agora du Vieux-Port. C'était 3h30 de show. Moi, j'étais fatigué comme spectateur après le show. Puis je me disais, Billy Joe avec sa gang, là, ils ont une couple d'années de plus que moi, là, puis ils viennent de livrer un spectacle, là, la pédale au plancher pendant 3h30. C'était des machines. On a vraiment eu des beaux concerts là. Donc là, pour un 4e été consécutif, c'est Flip Fabric qui s'installe là, la troupe de cirque de Québec. Il y a eu 3 volets de Crépuscule. C'était une trilogie, en fait. Et là, on arrive avec un nouvel univers qui s'appelle Feria. Donc, on arrive dans l'enceinte de l'Agora qui était évidemment pleine hier soir. Là. Il y avait peu de bancs disponibles. Quelques-uns réservés pour les dignitaires de la Ville de Québec qui étaient là. J'ai vu Robert Lepage qui était présent. J'ai vu M. Boulay, à qui on a parlé plus tôt cette semaine, Jean-Luc Boulay du Saint-Amour. Donc, lui était venu avec sa famille là, dans la section générale. J'ai pas vu M. Labombe. J'imagine qu'il va voir le spectacle au cours des prochains jours. Ou s'il était là hier soir, je ne l'ai pas croisé. Mais on arrive dans l'enceinte et ce qui retient l'attention, c'est évidemment la scène avec une immense table, avec un genre de fini bétonné qui est installé et qui traverse la scène au complet. Toujours la beauté du Château Frontenac en arrière-plan pour la scène de l'Agora. Et au-dessus de la scène, on voit l'inscription en néon. Ferme tes yeux, ouvre tes mains. T'es comme, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va falloir attendre la fin de la présentation pour avoir le petit rappel de cette inscription-là qui est au sommet de la scène. Donc, on arrive dans un genre de banquet. On est dans un rêve, carrément. C'est un homme qui débarque là et qui voit les acrobates arriver l'un après l'autre sous la table. Et on a installé au devant de la scène des genres de petits beanbags, là, les petits sacs en billes de sable pour qu'on installe des enfants. Là. C'est des enfants qui sont assis, des enfants du public qui sont là au devant de la scène pour assister à la représentation, une des 24 représentations. Et là, les 13 acrobates commencent leur numéro. Pas mal à tour de rôle. Donc, habituellement, il y a eu des numéros qui mettaient beaucoup en vedette tous les acrobates dans les spectacles précédents. Dans ce cas-ci, il y en a un qui fait vraiment appel à tous. Sinon, les acrobates sont surtout spectateurs des numéros individuels et des duos qu'on présente pendant la soirée. Il y a un numéro de jonglerie humaine avec lequel on commence. Quand quelqu'un s'installe là, avec les pieds vers les airs en étant couché sur le sol et fait culbuter quelqu'un qui lui est debout ou tourne carrément. Donc, ils sont deux, un couché, les pieds vers le ciel, et l'autre acrobate qui fait des figures par-dessus son collègue. On a eu un solo de cerceau, un solo de trapèze. Moi, mon coup de cœur, ça a été un numéro au sol qui est d'apparence assez simple. Là. C'est 2 acrobates, un gars, une fille, qui font des figures avec la trame sonore qui incorpore du violon. J'ai trouvé ça magnifique. Puis pourtant, c'est pas quelque chose qui est hyper enlevant. Il y a personne qui peut se faire réellement mal, sauf si, bon, il l'échappe, là. là, c'est sûr, mais c'est pas des numéros qui sont de très haute voltige. Oui, il y a un numéro de trapèze, mais c'est pas des numéros qui sont très aériens pour cette édition-là de Feria de Flip Fabric. On a vu des numéros plus enlevants dans les dernières années. Et le mobilier en tant que tel, puis c'est un peu le commentaire que j'avais lors des éditions précédentes, c'est que quand on voyait ces spectacles-là, on avait l'impression que les acrobates étaient là puis nous avaient invités à leur party. On avait le goût de triper avec eux. Il y avait moins de distance entre la scène et la foule. On s'approchait réellement proche des spectateurs, alors que là, on a un peu plus le mur qui est créé par la rangée d'enfants sur des beanbags. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage de ce côté-là. C'est un côté que j'ai pas retrouvé versus les autres éditions du spectacle gratuit de Flip Fabric à l'Agora. La trame sonore a été composée par Josué Bocage. Lui, il est sur scène et il chante en direct sur les compositions qu'il a réalisées. On est dans l'électropop. Des fois, on sort le piano pour des moments un peu plus berceuses, si on veut. Il y a la pièce au violon dont je vous parlais avec le numéro à deux. Donc, lui, il chante en direct. Assez efficace. Quand il monte dans l'aigu, c'est un peu plus difficile. Puis hier soir, on sentait que c'était la première représentation. Oui, il y a eu une générale la veille, mais là, il y avait le stress de se présenter devant 3000 personnes pour la première fois avec ce show-là. Donc, il y a eu quelques ratés dans les numéros. C'est sûr que personne n'est infaillible, puis que aux exploits que les acrobates accomplissent, tu peux pas avoir 100% de taux de réussite, mais tout de même, on a senti qu'il restait encore quelques petits détails à fignoler. Première de 24 quand même. Donc moi, je vais y retourner dans deux semaines peut-être pour voir comment le spectacle s'est ajusté. Et on le présente beau temps, mauvais temps. Donc il y a aussi des changements à faire lorsque la pluie est de la partie. On peut pas aller nécessairement dans les mêmes numéros. Donc on adapte le spectacle en conséquence.
Il doit y avoir même des changements quand même assez majeurs à apporter, puisque tu sais, la fois qu'il vente là, à l'Agora, il y a le dos, il y a le don de vanter. Là. Ah oui. La fois que le vent se lève puis qu'il pleut à pluie battante, ou bien, je sais pas s'il se garde le droit de l'annuler, possiblement, là. Mais il y a vraiment des figures qui doivent pas se faire littéralement sous la pluie puis par grand vent. Tu disais qu'il n'y a pas énormément de haute voltige, mais même à ça, je veux dire, ils doivent être perchés dans les airs assez en hauteur, puis il doit y avoir quand même certains moments où un gros coup de vent peut vraiment venir tout ruiner.
Mais dans le cas du numéro de trapèze, c'est un numéro en solo. Et il y a la corde de sécurité pour te retenir si jamais tu tombes. Donc, il n'y a pas d'envolée où la personne se retrouve totalement dans les airs. Là. Donc, je sais pas si celui-là, ils peuvent le garder, mais effectivement, ça peut être assez glissant, un trapèze, quand il pleut.
Il n'y a pas un funambule avec un parapluie.
C'est
mettons.
Ça, exactement.
Il y a 50 pieds dans les airs avec son parapluie.
Il n'y a pas de numéro.
Là, le coup de vent, ça fait plate.
Puis, le mobilier en tant que tel se transforme en cours de soirée. La fameuse longue table dont je vous parlais, qui est présente au début du spectacle, on l'adapte en fonction des numéros et elle reste sur la scène constamment, est modulable, puis à la fin on l'adresse complètement, ben avec un angle assez vertical pour que tous les athlètes puissent aller faire des figures, que ce soit sur des trampolines ou directement en montant sur la scène. Puis je voyais ça aller, puis j'étais comme, ça a pas l'air solide, cette affaire-là. Là. Moi, j'irais pas marcher dessus. Eux autres, ils s'en vont faire des figures. Donc, je suis persuadé que c'est approved, qu'il n'y a pas de problème,
ah
là,
oui.
que le saut de certification est dessus. Mais ça m'apparaissait quand même assez audacieux d'aller jouer là-dessus. Puis c'est de voir aussi le talent de ces acrobates-là qui, même si les numéros m'ont apparu un peu moins exaltants que dans les années précédentes, que j'ai pu apprécier leur prouesse physique. Parce que c'est tout le temps ça, le cirque, c'est de les voir aller et dire « Je serais pas capable de faire un dixième ou même un centième de ce qu'ils font. »
Ouais, puis c'est comme une espèce de tout, le cirque, qui est trippant, parce que ça me fait penser à juste une petite nuit d'écho-là que j'allais voir. Puis tu sais, c'est l'espèce de sentiment qui est assez difficile à décrire, mais tu sais, il y a les décors, les costumes, les acrobaties. Tu sais, oui, on peut dire, OK, si les acrobaties sont plus ou moins compliquées, mais quand tout ça vient qu'à être... c'est comme cohérent, mais tu comprends pas pourquoi.
Ouais.
Tu sais, la musique fit avec ce que tu vois, puis avec les figures que les acrobates font. L'un des premiers numéros dans le spectacle des colocs, c'est sûr, vous avez déjà vu ça, là. Il y a comme une espèce de structure, puis des trampolines à la base de cette structure-là. Puis là, ben, ils sautent en bas de la structure, sur le trampoline, comme à plat ventre, puis ils retombent debout sur le top de la structure. Puis là, ils font ça, puis ils synchronisent, puis là, ils font des flips, des affaires. J'ai déjà vu un numéro de trampoline comme ça.
Puis il y en a un dans Feria, justement. Là.
Ben, c'est ça. Tu vois, c'est quelque chose d'assez classique au cirque, mais tu l'enrobes avec une musique, tu l'enrobes avec des costumes. Dans le cas de Juste une petite nuit, on était dans un décor de ruelle, patente comme ça. Fait, c'était comme un gros mur de briques avec des graffitis, puis établi un peu en punk. C'est vraiment quand tu te rends compte que tu regardes le numéro, tu connais la technique de cirque, Mais le numéro en soi, ça va vraiment au-delà de ça. C'est ça qui est trippant. Mmh.
C'est différent. Puis la mise en scène de Feria, c'est signé par Olivier Normand. Puis ça donnait un mélange intéressant. Donc, allez-y. C'est gratuit dans la mesure où c'est payé avec vos taxes. Si vous avez apprécié les éditions précédentes, vous allez aimer, mais réduisez un petit peu vos attentes. Des 4 éditions de Flip Fabric à l'Agora, c'est peut-être celle qui m'a laissé un petit peu plus sur mon appétit. Mais comme je vous dis, j'ai vu la première. Puis je vais y retourner dans 2 semaines. Je vais amener des amis pour voir comment le spectacle a évolué, puis comment les acrobates ont pu encore plus maîtriser leur numéro. Donc, c'est du mardi au dimanche. C'est à 20h30 à l'Agora du Port de Québec jusqu'au 2 septembre. L'accès est gratuit, mais arrivé un peu avant parce qu'évidemment, ça fait courir pas mal de monde. Puis, il y a les touristes aussi qui sont au courant. Hein. Les hôteliers, je sais pas comment ils gèrent ça, mais j'ai entendu parler anglais et espagnol pas mal hier soir pour cette première du côté de l'Agora. Dans l'actualité, cette semaine, aujourd'hui plutôt, il est question du troisième lien. Ça faisait quand même depuis lundi dit qu'on n'avait pas parlé. Véronique Tremblay était passée dans le studio de Jean-Simon le matin, puis elle en avait parlé évidemment comme ministre déléguée au transport. Mais là, la nouvelle dont on parle aujourd'hui, c'est concernant le péage du troisième lien. On est encore très, très loin du troisième lien, mais le premier ministre Couillard a été questionné là-dessus par les journalistes et lui n'exclut pas l'idée de faire payer le péage, de faire payer le passage sur le troisième lien. On s'est retourné vers le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, du côté du bureau parlementaire de QMI, et lui a été catégorique, il a dit pas question de péage sur quelque nouvelle infrastructure que ce soit, ça m'intéresse pas. Donc c'est le principe de l'utilisateur-payeur, mais on n'a pas encore de coût rattaché au troisième lien, donc c'est encore tôt un peu pour se prononcer, puis M. Couillard veut pas se fermer une porte non plus.
Mais l'affaire avec ça, c'est que moi, le principe du péage en soi me dérange pas. Je suis allé dans le Maine, puis il y a 2-3 péages pour y aller, même chose pour revenir, tu le sais, tu prépares ta pièce et demie, ça engorge pas le trafic outre mesure, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, quand il y a des péages, ben les gens qui y passent, les Américains notamment, ben c'est qu'ils payent moins d'impôts. Puis paye moins de taxes. Si tu payes beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts, c'est justement pour les services publics et les infrastructures. Ça fait que si on a des impôts élevés, normalement, il ne doit pas y avoir de péage sur les autoroutes. Si on décide de baisser les taxes et les impôts, notamment pour les infrastructures, puis qu'on décide à la place de mettre des péages parce qu'on juge que ben il n'y a pas moyen que l'argent se perde dans différentes enveloppes, puis tu es capable de comptabiliser exactement il y a combien de personnes qui passent, à quel prix, ça fait combien d'argent, c'est ça que ça coûte entretenir la route. C'est une méthode qui se défend, les péages. Mm-hmm. Moi, ça me dérangerait pas. Mais c'est pas vrai qu'on va nous demander de payer beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts, et en plus des péages sur les routes, parce que là, à un moment donné,
il
y a un principe qui fonctionne pas.
Ça, c'est de payer un troisième lien avec de l'argent 100% public. Mm-hmm. S'il y avait le privé qui s'intégrait là-dedans, peut-être que là, on pourrait dire, OK, le privé va en défrayer une partie, le public, on fait un PPP, puis il va y avoir un péage là-dedans, puis on va se splitter les revenus. Là, ce serait peut-être plus avantageux. Mais là, dans ce cas-ci, on parle de l'argent de vos taxes puis de vos impôts, puis en plus, vous allez en rajouter par-dessus.
Ça marche pas, là. C'est d'ailleurs le principe de la taxe sur l'essence, c'est d'améliorer les infrastructures. S'il y a une des raisons pour lesquelles on paye plus cher l'essence ici, c'est pour ça. Puis aussi, bon, pour les programmes verts, là, mais c'est beaucoup pour les infrastructures. Puis finalement, au total tout, on remarque que l'argent, ben, se rend pas justement aux infrastructures.
Quand on regarde, par exemple, le pont A25, l'autoroute 25 entre Laval et Montréal, il y a un péage là-bas. Là. Quand on va voir des shows à la Place Belle, moi, je passe par là tout le temps, puis c'est un bon raccourci quand même. Là. Si on passe par ailleurs, c'est un méchant détour. Donc, dans ce cas-ci, il y a des prix pour l'heure de pointe, il y a des prix pour la période hors pointe. Pour un véhicule qui a son transpondeur, donc l'espèce de bidule qui envoie un signal puis qui réussit à cumuler, puis il y a un bill qui est envoyé à la fin du mois, c'est 3,34 dans les périodes de pointe, entre 6 et 9 le matin.
Par passage.
Et quand même. 3,34 $.
Ah oui. C'est élevé.
Ah oui.
Oui, entre 6 et 9, puis entre 3 et 6 l'après-midi. Puis les périodes hors pointe, on parle de 2,34 $. Et quand t'as pas le fameux bidule pour cumuler tout ça puis d'envoyer une seule facture par mois, ben là, on tombe à 8,89 $ dans la période de pointe.
Et palais!
Donc moi, quand je vais voir un show à Place Belle, je reçois un bill 2-3 semaines après, puis c'est écrit 8,89 $ dessus. Parce que je suis passé là, sur l'heure du souper, mettons, là. Si on passe dans les périodes qui sont pas de pointe, on enlève un dollar. Mais c'est 7,89 quand même.
Mais là, tu peux pas, ça va pas être des prix comme ça sur un troisième lien. Imagine, tu vas mettre la moitié des familles qui passent dessus de sa paille. À coup de 8 piastres le passage, oublie ça, ça se pourrait pas. Mais j'imagine en même temps que là, c'est parce qu'on utilise un exemple qui est spécifique à Montréal, dans un secteur X. Mm-hmm. Dans le cas du troisième lien, c'est parce qu'on suppose qu'on aurait aussi une autoroute périphérique. Puis ça viendrait développer certains secteurs aussi, notamment sa rive sud, Beaumont, Bellechasse et compagnie. Il y aurait de plus en plus de gens qui l'emprunteraient au fur et à mesure qu'on avancerait dans le temps. Bon, c'est bien compliqué. Il commence à y avoir beaucoup de données à considérer avant de fixer un prix de péage. Mais je me souviens, aux États-Unis, c'était... Dans le Maine, là, les autoroutes principales, la 95 et la 295, je me trompe pas, là, c'est une pièce et demie, une ou une et cinquante, le payant, pas plus que ça. Pas plus que ça. Est-ce qu'il passe vraiment beaucoup, beaucoup plus de monde, peut-être? Mais,
oui, sûrement. Mais comme tu dis...
3, 4, 5, 6 piastres, à un moment donné, c'est... Tu sais, 3,50, c'est le prix d'un passage de bus, là.
Oui.
Normalement, ton péage est supposé d'être au moins la moitié de ça, là.
Mais tu le calcules comment, dans ce temps-là? Est-ce que... Parce que, évidemment, les gens qui vont emprunter... Mettons qu'on fait un troisième lien, là, à l'est, OK? Les gens qui vont passer de Lévis pour rentrer au centre-ville, ils vont économiser, quoi, 20-25 minutes de trafic, peut-être?
Oui.
On est dans... Vous comprenez, là, on est dans les estimations, dans les suppositions.
C'est sûr. Mais imagine que tu sauves le détour parce que tu fais l'espèce de grand U, puis en plus, tu sauves le trafic accumulé dans ce secteur-là. Fait qu'on peut supposer un 20 minutes, une demi-heure là, de sauver à chaque jour.
Plus le gaz.
Mais à chaque allée, en fait. Je dis à chaque jour, mais c'est à chaque allée. C'est au ça. Total tout, ça peut être une demi-heure, une heure par jour de sauver.
Donc, l'essence et le temps, ça vaut quelque chose.
Ah oui.
Mais l'essence, t'as pas 15, tu sauves pas 15 piastres d'essence par jour. Là.
Non, pas par jour.
Mais
peut-être au bout de la semaine.
Ouais.
Donc,
mais ça te coûte, ça, dans le cas de l'A25, ça te coûte 8 piastres par passage. Ben là, c'est pas vrai, c'était modulé de différentes manières, mais en tout cas, il me semble que techniquement, le péage, là, c'est tel que tel, mais il faudrait que ce soit un montant suffisamment bas pour que tu le budgettes, mais c'est pas, tu sais, mettons, 30 piastres par mois, ça, techniquement, c'est pas supposé de mettre personne dans la rue, à moins vraiment qu'on ait de bas revenus. Mais à 8 piastres par jour, là, ça commence à être différent. Quand, 8 piastres le passage, puis tu passes deux fois.
Oh oui, mais 40 piastres par semaine, là, fois 4, 160 piastres.
C'est démesuré.
Ah oui, mais ceux qui prennent le pont de la 25 entre Lévis et Montréal, ben, c'est ce qu'ils payent actuellement. Mais là, on n'a pas le même échafaudage de prix, mettons. Là. On n'a pas encore la même structure de coûts pour bâtir l'infrastructure. Là. Dans le cas de la 25, le privé est impliqué là-dedans, si je ne me trompe pas.
Je ne sais pas si le privé est impliqué dans la... On parle de la 25-226, quelqu'un qui nous parle de la 30 vers Ottawa. La 30 vers Ottawa, ce serait 2,80 le péage. Je ne sais pas si c'est moi qui est fou, mais on dirait que j'ai une barrière psychologique avec le prix d'un billet de bus, moi. C'est 3,5 piastres rentrer dans l'autobus, ou 3,25, là, en tout cas, à Québec et à Lévis, ce n'est pas exactement le même prix, mais disons qu'on dit 3,5 piastres, là. Il me semble que le péage peut pas être. Ça peut pas être au-dessus de 3 piastres. Je suis fou, moi, d'avoir cette barrière psychologique-là avec le billet, avec l'entrée d'autobus. Parce que là, on choisit nos modes de transport. Fait que tu dis, OK, là, l'autobus, c'est 3 piastres et demi, aller-retour, 7. Ensuite, le char, ben là, c'est sûr qu'il y a des prix d'auto, d'assurance, de plaques, de gaz, d'entretien et compagnie. Plus le prix que ça me coûterait en plus de prendre l'autobus. À un moment donné, ça commence à être de l'argent, moi, t'as dit, là.
Ah ouais. Puis, on se compare. Regarde, tu parlais de l'autoroute, là, dans le Maine, qui était à 1 $ quelque, là. Ouais. Là, on n'est pas dans la même région. Là. Tu comprends que San Francisco, il y a du monde en bâtisse, puis c'est étendu. Là. Mais le Golden Gate Bridge, pour le traverser, c'est 10,40 en canadien. Là,
c'est
une fois, puis même si tu as ton abonnement avec le Guidi qui envoie un signal, puis tout, là, c'est 10,40 pour traverser le pont. Là.
Le pont de la Confédération à l'île du Prince-Édouard, c'est 50$.
Ben oui.
Par voiture.
Puis ils te le font payer quand tu rentres.
Par passage.
Non, quand tu sors. C'est vrai.
Ouais. Quand tu
sors. Parce qu'ils savent que tu es obligé de sortir à un moment donné.
Exact. Tu es rentré, tu es obligé de sortir. Puis ils mettent la pancarte de payage juste à l'entrée du pont. Fait que si tu le sais pas, tu te fais prendre.
Ouais, c'est ça. Il y a du privé aussi dans le cas de la 30, dans la région d'Ottawa. Donc, c'est
en fait, c'est pas Ottawa. La 30, c'est...
Vers Ottawa.
À l'extrémité ouest de Montréal.
C'est ça.
Mais c'est collé sur Montréal. Là.
OK.
Exact.
Vers Ottawa.
Oui. Ouais. Pour ce qui est du troisième lien à proprement parler, évidemment, on est encore en manque d'informations. Là,
on est d'un balbutiement. Il n'y a même pas d'études encore de fait. On n'est même pas sûr qu'il y a un bureau de projet officiellement.
Ouais.
Ben oui.
On nous dit que oui, mais ça a l'air vide. Là.
Ah, mais c'est pas un site touristique?
Ce jour, Jeff, le cœur m'a arrêté quand j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu Véronique Tremblay répondre à la question « Est-ce que les journalistes vont être invités à aller visiter, vont être admis dans le bureau de projet? » Elle de répondre « Non, c'est pas un site touristique. » Hey, le cœur m'a arrêté. Genre, je trouvais ça, là. D'abord, c'est un peu pédant, là, comme réponse. C'est assez hautain.
C'est arrogant, oui.
Mais ensuite, parce que, écoute, c'est tellement important aux yeux du public. C'est tellement un débat à Québec. Le fameux troisième lien, c'est tellement gros. Faudrait au moins que les journalistes puissent aller chercher l'information. Mm-hmm. Puis quand on en envoyait une, on s'est rendu compte que c'était une maison de fous. Il n'y avait pas moyen de rentrer. Il n'y avait pas moyen de parler à personne. Il n'y avait pas d'écriture sur aucune porte.
Oh, on a failli égarer Pascal. C'est pas
compliqué. Elle a failli jamais sortir de là. Non, c'est pas un lieu touristique. Ouais.
On va avoir une mise à jour vers la mi-août, selon ce que dit Mme Tremblay, sur les faits saillants de l'étude de besoin. Donc, il n'y aura pas d'aperçu de l'état d'avancement de la première étude, pas de coût nécessairement.
Mais la mi-août, avoir... c'est lundi, là.
Ouais, c'est pas mal de... ouais, c'est pas mal lundi.
Mercredi!
Ouais, pas être plate, mais ouais. C'est la semaine prochaine.
Ouais. On devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent la semaine prochaine. Pour la rentrée radio, mettons, on va avoir quelques informations. Puis je sais déjà qu'on va dire qu'on n'a pas assez d'informations parce que c'est un peu comme ça.
Parce qu'il n'y en a pas.
C'est ça, le gouvernement libéral essaie de nous en donner un peu pour nous faire patienter en attendant les élections, là, mais on n'aura pas grand-chose.
Ben non.
Ça me surprendrait bien gros. Petit dossier qui m'a fait sourire aujourd'hui dans le Journal de Québec, celui du gazon synthétique sur une propriété dans le secteur de Saint-Émile, sur la rue Vézina. C'est un couple qui a fait installer pour 8 000 $ de gazon synthétique sur son parterre avant. C'est au mois d'octobre dernier. Le monsieur, il dit, moi, quand je passe la tondeuse, j'ai des allergies, puis ça marche pas. Fait que j'ai fait installer ça, puis je pensais que j'étais correct. Sauf qu'une semaine après, il y a une inspectrice de la ville qui vient faire... Ouais, le gazon synthétique, c'est parce que, hein, une semaine plus tard, il reçoit une lettre. Finalement, il y a eu des discussions avec le conseiller municipal du district, Steve Verrette. Il y a une rencontre récente avec la ville. Là, ils ont une espèce de... Ils ont un petit allongement du délai là, jusqu'au 31 octobre. Mais à partir de ce moment-là, ça va être 1 000 $ pour la première amende. Puis ensuite, on va voir s'ils décident de l'enlever ou s'ils le laissent là.
Pour la première amende, mais s'ils décidaient de le laisser là, c'est 1 000 $ par jour.
C'est comme les pancartes électorales.
Comme les pancartes électorales. Quand tu donnes une amende, c'est une par jour tant que le dossier n'est pas réglé.
Mais avouez que ça fait minipote un peu. Hein.
Là, Dan, écoute, ça fait quétaine, OK? C'est sûr que ça fait quétaine. Mais point de vue efficacité, il n'y a rien qui bat ça.
Je comprends. mais moi, sérieusement, là, je trouve que... Puis je veux pas avoir l'air hautain, là. Mais je trouve que... On devrait les laisser de même puis pas leur donner d'amende. Ça a quasiment l'air plus fou que de leur demander de les enlever. Là.
Ben oui, mais ben, c'est sûr.
Il
n'y
a pas un voisin. Tu sais, dans les quartiers comme ça, les quartiers résidentiels, Paul Raphaël, les gens à 8h15, 8h30 prennent une marche. Okay?
Ouais.
Il n'y a pas un voisin de ces gens-là qui est passé dans la rue depuis qu'ils ont installé ça et qu'ils ont dit « Hey chérie, on fait ça même en France. Ouais, »
C'était une bonne idée.
Ben, moi, j'aurais peut-être dit ça à ma blonde, mais c'est sûr qu'elle a dit non.
Oublie ça.
Ça se peut pas. C'est parce que tu aurais voulu fumer peut-être. Là.
Non, c'est quoi ça?
Non, je t'agace.
Non, c'est que moi, je suis un pro-efficacité, mais je réalise qu'en couple, ça marche pas. Là. C'est sûr que l'efficacité gagne jamais. C'est les gars, j'ai toujours l'impression qu'on est un petit peu plus pro-efficacité, puis les filles, c'est plus pro-esthétique. On va dire ça comme ça. Mais, je veux dire, moi, j'ai vécu dans un appart de gars pendant 2 ans, puis on vissait des cannes de soupe sur les murs à côté du divan pour pouvoir mettre nos bières. Là, on avait des porte-verres en recyclage de cannes de soupe.
Avec les mêmes gars avec qui tu étais à la pêche?
Oui, mais il n'y avait pas plus efficace que ça.
Ça explique peut-être la récolte de 6 truites pour 10 gars.
Notre table...
4 jours au Mont-Valin.
Notre table de salon, c'était 2 palettes de bois empilées une par-dessus l'autre. T'sais. Ça faisait une grande table. En même temps, c'était le pouf. T'sais, moi, l'efficacité, j'adore ça. Donc, la pelouse synthétique, jamais besoin de la tondre, pas d'allergie, confortable sous le pied. Moi, je serais...
Confortable sous le pied.
Moi, je serais pour ça. Mais je sais que ça passerait jamais au conseil familial qui est essentiellement composé de ma blonde comme présidente et de moi comme concierge. Je sais que ça passerait pas.
Ah, mais as-tu vu la grosseur du terrain? Je veux dire, c'est pas long de passer à la tondeuse là-dessus. Là.
Ah oui, mais le gars a des allergies.
Hey, je vais lui payer des claritins s'il faut.
Non, non. Hey, des allergies saisonnières, si on n'y est pas avec ça. Il y a des gens... qui souffrent d'un rhume épouvantable une semaine par mois. D'autres, c'est une semaine, excuse-moi, par année au printemps. D'autres, c'est pire que ça. Ça, c'est vraiment... C'est agaçant, le rhume des foins. Moi, j'ai ça, puis ça m'agace.
Ah oui, mais tu prends des pilules d'allergie. J'ai ça depuis que je suis tout petit, puis il n'y a pas de problème.
Ouais.
Puis d'ailleurs, un bon truc, là, tu commences dès... Aussitôt que la neige fond, là, au mois d'avril-mai, là, tu commences.
Ouais,
comme
c'est
ça, c'est-tu quoi? Ton système va être comme rodé ces pilules jusqu'au mois d'août. Il n'y a pas de trouble. Mais si tu commences au moment où tu commences à couler du nez, ben là, tu vas être dans le... Là, tu vas être dans le tour.
Mm-hmm. Il me semble que le gazon synthétique, je vois ça, moi, d'un parc de maisons mobiles en Floride.
Mais c'est un peu ça. Parce que d'ailleurs, d'ailleurs, pour les avoir entendus en entrevue, c'est ça qu'il disait. Il disait, c'est là qu'on a vu ça. Ils ont dit, ils font ça en Floride, ben puis oui. Après ça, ils se défendent en disant, ça se fait à l'ancienne Lorette, ça se fait à Saint-Augustin, mais pas à Québec. Pourquoi pas à Québec?
Ça se fait ailleurs.
Hein? Ouais. Que c'est permis. En fait, il n'y a pas de règlement municipal qui l'interdit comparativement à Québec. Mais s'il y a un règlement municipal qui dit « Vous pouvez pas le faire », d'habitude, tu le fais pas. T'sais.
Pas de règlement qui est interdit, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui le font.
Ouais, c'est ça.
C'est assez inusité quand même. Ça, c'est ça, je vous l'accorde.
Ouais. Tu sais, l'inspectrice de la ville n'est pas passée là un samedi après-midi en disant « Hey, t'sais, une semaine après que ça soit posé, là, oublie ça, il y a un voisin qui a appelé. »
C'est sûr.
C'est sûr. Donc, regarde, je me souviens quand j'étais à la rue Pelletier à Jonquière, okay, il y avait un de mes voisins qui, lui, avait réglé le problème, pas avec du gazon synthétique, il avait planté des fleurs à grandeur.
Ouais.
Hein? Il y avait juste des fleurs sur tout son terrain avant, là, c'était une plate-bande.
Ça, il aurait le droit. C'est
avec un peu de paillis, exact.
Ouais, du paillis partout.
Fait que lui, un peu de mauvaise herbe une fois de temps en temps. Là, il faisait une corvée une fois par mois ou deux mois, je sais pas. Mais il avait pas besoin de tondre le gazon. Il avait réglé ça de même, puis il y a pas un chat qui chialait. C'était inusité, mais c'était pas du gazon synthétique, baptême.
C'est bien plus confortable du gazon synthétique sous le pied, par exemple. Non, mais il existe toujours la solution du trèfle. Ça, c'est bien à la mode, le trèfle.
Pour des lapins.
Non, ça pousse pas tant que ça, du trèfle. Puis ça devient, c'est quand même une mauvaise herbe, vraiment, du trèfle. Ouais. Donc, c'est super envahissant. Fait que tu plantes un peu de trèfle, tu t'en occupes pas bien.
Puis tes voisins, ils t'aiment à mort.
Non, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça.
Oui, je sais.
Qu'on pense. Surtout dans les espaces restreints où la tondeuse est tough à passer, là. Tu plantes du trèfle. C'est juste que là, lui, il aurait un terrain au complet de trèfle, mais ça fait moins roulotte en Floride, comme Dan disait, que du terrain synthétique. Bien que moi, terrain synthétique, je trouve ça confortable.
Il y a un auditeur au 25226 qui nous fait remarquer qu'il y a des nouveaux types de gazon synthétique qui ressemblent vraiment à du vrai gazon. Tu sais, avec des vrais brins d'herbe synthétique, là. C'est pas juste une genre de moquette qui râpe.
Et on a joué au stade Canac, là, couvert cet hiver à Bâle, là. Puis c'est un bien beau terrain synthétique. C'est merveilleux, mais je me suis jamais dit, hey, il faut que j'aille ça dans ma cour, tu sais. Jamais, là. Même si je trouve ça incroyable jouer là-dessus, j'aurais pas ça chez nous. Et c'est... Pas du gazon.
À l'ancienne Lorette, Marie-Ève nous écrit, il n'y a pas de règlement contre ça à l'ancienne Lorette. Et semble-t-il qu'il y a une maison sur l'avenue Notre-Dame.
OK.
Il y a du gazon synthétique devant chez elle.
Ouais.
Donc, ça se fait ailleurs.
On les salue.
Dans le cas des travaux, dans le cas des travaux sur la rue Vézina dans le secteur Saint-Émile, c'est une compagnie qui s'appelle Terrassement Portugais qui a fait ça. C'était la première fois qu'il l'installait à Québec.
C'est original comme nom de compagnie. On n'avait jamais entendu ça.
Non.
Terrassement portugais.
Oui, donc c'est eux qui ont fait ça. Je vous rappelle, ça a coûté 8 000 $.
D'après moi, il y a 8 compagnies terrassement portugais à Québec.
Ça ressemble à ça, je pense.
Il y en a une dans la route de l'aéroport à Val-Bélair, je pense, dans ce coin-là. Il y a le portugais qui est là pour vendre des fleurs. Mais bon, terrassement portugais, c'est eux qui ont été responsables de ça.
C'est eux autres qui vont l'enlever aussi?
Ben, j'imagine. Mais le propriétaire de la maison, M. Dignard, qui a parlé à Jean-Simon ce matin, il a dit, nous, on compte pas les poursuivre. Je veux dire, c'est pas de leur faute si on a installé ça.
Non, c'est une demande.
Ouais.
Donc, exécuté.
Pour l'instant, c'est permis sur les terrains de sport et M. Dignard, le propriétaire de la maison, il dit dans les places éphémères. T'sais, on est rendu avec 24 places éphémères avec du plywood à Québec. Là.
Ouais.
Sur la rue Saint-Joseph, devant la bibliothèque Gabriel Roy, il y a du turf synthétique. Fait que là, il dit, hey, c'est deux poids, deux mesures. La ville en utilise, puis nous autres, on n'a pas le droit. En tout cas, il y a une pétition devant la maison, si vous voulez aller la signer sur la rue Vézina.
Il y avait 70 signatures jusqu'à maintenant.
Ouais. Donc, Paul Raphaël, on pourrait
ça
le reporter.
Ça suscite les patients.
Oui.
Tu sais, quand on va chez Home Depot, là, ils nous demandent tout le temps notre carte postale pour voir d'où on vient. Je serais curieux de voir les 70 signataires, ils viennent de où.
Ils ont tous la même carte postale.
D'après moi, c'est pas les voisins immédiats.
Ouais, c'est vrai que les voisins doivent pas aimer ça. Non, t'as raison, dame.
Oui, c'est les voisins des autres rues à côté qui vont juste troller leurs voisins de la rue Vézina. Fait que, ouais, on va leur donner une poche de trèfle. Je pense que c'est bon, ça.
Mais la question à laquelle on n'a pas encore eu la réponse, c'est est-ce qu'il y a une espèce de gros lion, là, tu sais, une grosse sculpture de lion devant sa maison.
En pierre, là.
Ouais, les gros lions en pierre, là.
Non,
ça, ça a été à mode à un moment donné, mais on voit plus ça bien.
Sur les photos, il n'y a pas de lion.
Il n'y en a pas. Ah,
non.
Bon. Ben, moi, je mettrais ça. En plus.
En plus.
En plus de mon intérêt
synthétique. En tout cas, si vous voulez vous exprimer là-dessus, studio@fm93.com, 25226. Aimeriez-vous ça que votre voisin ait ça? Puis comment vous réagiriez?
Ou en voulez-vous chez vous?
Ouais. Dans le cas de la rue Vézina, c'est plus ou moins un succès. Mais bon, on a un exemple pour nous dire que la ville l'accepte pas. Donc, si vous aviez cette idée-là pour les prochains mois, pour l'été prochain, il faudrait peut-être un petit peu revoir vos plans de ce côté-là. Dans le monde du sport, Dan, avant d'aller à la pause...
Ben évidemment, on se prépare pour le programme ici à Québec, c'est demain, là. Ça fait longtemps qu'on l'attend ce programme-là, 10e édition du programme Gagné-Bergeron. Il y a eu un désistement de dernière minute, Jordan Subban, le frère de Piqué, est blessé, ne pourra pas être là. Et Carl Subban également ne sera pas l'un des entraîneurs, le père de Piqué Subban.
Puisque Jordan n'est pas là?
Non, parce que Malcolm le gardien, va être là. Okay. Il n'était pas les trois dans le même pick-up, là. le goaler est correct, il va être là, lui. Mais ça arrive, hein, quand on organise des événements comme ça à la dernière minute, ben, j'imagine qu'Alain Rioux est sur le cellulaire jour et nuit depuis quelques jours. Mais je vous rappelle qu'Antoine Vermette va faire partie de l'une des deux formations. Il y a 19 joueurs de la Ligue nationale au total qui ont confirmé leur présence. C'est demain. Ça coûte seulement 25 $. Et quand je dis seulement 25 $, c'est que c'est au Centre Vidéotron. C'est un match de hockey qui regroupe des joueurs amateurs et des joueurs de la Ligue nationale, ainsi qu'une prestation de Simple Plan. Donc, à 25 $, d'après moi, tout le monde y trouve son compte. On attend près de 10 000 spectateurs pour l'événement demain soir. Le 93 sera sur place, évidemment, comme on vous l'a dit toute la semaine. Dès 14 h, je vais parler à Jeff en direct de là-bas. Puis dès 17 h, je vais animer une émission spéciale de 2 h. Le collègue Will et moi, on va être là pour essayer de vous entertainer sur ce Pro-Am Garnier-Bergeron, 10e édition.
14 h 40, on fait une première pause dans le retour. Bougez pas.